Radio Spirale. En mars 2011, le CRILC recevait Rodney Saint-Éloi, poète, écrivain et éditeur québécois d'origine haïtienne. La rencontre était animée par Lise Gauvin et s'est tenue à la librairie Olivieri.
Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Rodney Saint-Éloi, qui est éditeur, écrivain, lecteur. Il a tenu à mettre aussi cette activité à son compte, dans son portrait. Et c'est avec grand plaisir que nous l'accueillons. Et avant de commencer, comme nous avons discuté un peu pour préparer cette rencontre, Rodney m'a dit qu'il fallait d'abord donner une pensée, en tout cas faire un bref hommage à Édouard Glissant. Est-ce que tu veux en parler un tout petit peu, ou est-ce que tu veux dire ce qu'il signifiait pour toi, ou...
Ah, moi je pense que merci à vous d'être ici malgré cette tempête. Et puis, vous êtes très courageux. Et merci beaucoup à Lise. Donc, je pensais que, comme à chaque fois qu'on parle de Lise, et Lise est le trait d'union. Lise est celle qui représente ici Édouard Glissant. Et cette littérature francophone, caraïbéenne, c'est l'être francophone. Et qu'on lit souvent dans le devoir l'être francophone, dès qu'on voit le mot francophonie. Et c'est très sûr que vous allez voir au-dessous de ce mot francophonie, Lise Gauvin. Et puis je dis, mais pourquoi ne pas commencer par Édouard Glissant? Parce que quand la nouvelle d'Édouard Glissant est tombée, qu'il est mort, j'étais justement à Fort-de-France, et puis j'ai fait la promenade pour Cap Diamant, et le soir même, j'ai rencontré Patrick Chamoiseau, j'ai rencontré Anisset, Victor Anisset, le sculpteur qui est très proche de Glissant, des gens qui sont très très proches de Glissant. Et j'ai dit à Lise, c'est important de voir comment Glissant a travaillé, et que ce soit dans son œuvre, qui a travaillé entre les frontières du récit, les frontières de la poésie, les frontières de l'essai. C'est une œuvre qui est au-delà des langues, parce qu'il a su créer aussi sa propre langue. Et je pense que Glissant représente, en fait, on parle beaucoup de pays réel, pays rêvé. Donc, je pense que l'imaginaire de Glissant est beaucoup lié à l'imaginaire d'Haïti. Donc, cet espace cette théorie du tout monde est un petit peu une démarche proprement haïtienne dans la vie, parce que on a même créé en Haïti ce qu'on appelle un dixième département. Donc, une manière d'habiter le monde. Il y a 9 départements en Haïti, et le 10e, c'est le monde. Donc, les Haïtiens sont un petit peu partout au monde. Donc, quand Glissant dit tout le monde, on a l'impression que l'illustration du tout le monde se passe en Haïti et avec les Haïtiens.
Oui, ben je crois que c'est juste, parce que ce tout le monde est très vaste, et je pense qu'il appartient à chacun de se l'approprier aussi. Alors, je vais peut-être lire quelques phrases de Glissant, et puis ensuite on passe à Rodney. Dans un des entretiens qu'il m'a accordé, il dit ceci: « Je crois que nous sommes dans un temps que j'appelle le temps monde, où nous ne pouvons plus imposer de conditions au monde. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus de cadre pour une action, ni de limite pour une action, mais on ne peut plus projeter sur le monde des grands schémas idéologiques à partir desquels on travaillerait. Je crois que c'est impossible. C'est un des lieux communs de la pensée monde. Il me semble que tant que la totalité monde ne sera pas réalisée, c'est-à-dire tant que toutes les cultures du monde n'auront pas conçu que ce n'est pas nécessaire d'annihiler, de démolir une culture pour s'affirmer soi-même, des cultures seront menacées. Tant qu'on n'aura pas accepté l'idée, pas seulement conceptuellement, mais par l'imaginaire des humanités, que la totalité monde est un ensemble dans lequel tous ont besoin de tous, il est évident qu'il y aura des cultures qui seront menacées. Ce que je dis, c'est que ce n'est ni par la force, ni par le concept qu'on arrivera à protéger ces cultures, mais par l'imaginaire de la totalité monde, c'est-à-dire par la nécessité vécue de ce fait que toutes les cultures ont besoin de toutes les cultures. Alors, c'est sur cette pensée généreuse que nous débutons cette rencontre. Nous venons à Rodney, qui est éditeur, écrivain, qui habite le Québec depuis 2001. Il a publié déjà 6 recueils de poèmes et différents ouvrages, dont le dernier, dont nous parlerons plus particulièrement, qui s'appelle « Haïti Kembela ». 35 secondes et mon pays à reconstruire, qui est un ouvrage écrit à partir du tremblement de terre, à partir du séisme, mais qui correspond à un imaginaire assez vaste, qui représente un vaste projet et d'écriture en même temps que la radiographie de cet événement. Alors, j'aimerais d'abord vous demander, Rodney, est-ce que... On se dit « tu » ou « vous » là, officiellement?
On dit « comme tu veux
». On va se tutoyer, ça va peut-être être plus simple. Alors, est-ce que... toi, tu étais éditeur, on va commencer par l'éditeur. L'éditeur que tu étais en Haïti... avait une maison d'édition qui s'appelait Mémoire et qui publiait surtout de la poésie. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi correspond le métier d'éditeur en Haïti, à quoi ça correspondait? Est-ce que c'était quelque chose d'extrêmement difficile ou est-ce que c'était une activité clandestine bien reconnue ou... est-ce que tu avais est-ce qu'il y avait beaucoup d'échanges avec les lecteurs? Raconte-nous un peu ce que c'est que d'être éditeur en Haïti.
En fait, en Haïti, j'écrivais et puis j'étais journaliste, j'enseignais aussi. Comme tout jeune Haïtien intellectuel, donc on faisait pareil. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui travaillaient à compte d'auteur, et c'était des auteurs de grande importance, comme René Philoctète, comme Franck Etienne. Et j'étais très intéressé par le cinéma, et j'ai vu, en fait, je voulais faire une maison d'édition, comme une maison d'édition d'auteur, comme on parle du cinéma d'auteur. Donc j'ai regroupé des amis écrivains, j'ai commencé par publier Franck Etienne, par publier René Philoctète, C'est Il qui marche, un livre qui, paradoxalement, a beaucoup de rapports à Québec. Il y a une bonne partie qui a été écrite ici à Montréal, donc où il y a dans l'intertexte, il y a beaucoup de Anthony Phelps, il y a tous les gens de Haïti littéraire. Donc René Philoctète, c'est un poète qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait très très bien en Haïti. Et puis donc j'ai commencé par Franck Etienne, j'ai commencé par René Philoctète, après j'ai publié Franck Etienne, après j'ai publié beaucoup de jeunes aussi de jeunes auteurs en Haïti pour ne pas se donner dans des problèmes générationnels. Donc à côté de René Philoctète, de Franck Etienne, il y avait Max Xavier, il y avait des jeunes, 5 ou 6 jeunes auteurs, et Max et Dominique va appeler plus tard ces auteurs la génération de mémoire, des éditions mémoire, la génération des éditions mémoire. Donc l'idée, c'était en fait, c'est qu'en Haïti, tout le monde écrit et il y a très peu de structure. Donc, l'idée, c'était de rassembler sur une base régulière certains auteurs et de faire en sorte qu'ils aient un certain écho. Mais au niveau de la réception, elle était extraordinaire. Moi, je pense que la réception en Haïti, c'est un pays où il n'y a pas de différence entre le récit et la poésie. Et le récit, c'est un genre très mineur. En Haïti, donc ça commence par la poésie, les gens lisent beaucoup. Et la poésie, quand j'ai fait le lancement d'un livre de poésie, que ce soit Philoctète ou bien un jeune auteur, on risque d'avoir 200 ou 300 personnes. Donc ils sont là, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement acheter. Mais ils sont là, ils lisent et puis ils relisent. Donc la réception, elle est superbe. Donc il n'y a pas de problème. et de lecture publique en Haïti. Je pense qu'il y a un désir de lire, parce que lire, c'est lié à la citoyenneté même du jeune Haïtien. Il veut lire, c'est le seul pays où il y a, dernièrement, il y avait un lancement en décembre, avant le séisme en Haïti. C'était le livre de Daniela Feria, L'énigme du retour. Mais il y avait le général de l'armée, le chômeur, le médecin de la place. En fait, tout le monde, on a dû bloquer une rue parce qu'il y avait une vente signature. Ça se passe nulle part au monde. Il y avait une fois, j'ai...
C'est toujours comme ça quand Dany lire, non? Pardon.
Oui, donc c'est une fois on était à, une fois on a signé 700 exemplaires d'un livre lancé en Haïti en une journée. C'est-à-dire que j'avais Pierre Astier qui était avec moi. Il ne comprenait pas comment on pouvait, en une journée, un auteur signer 700 exemplaires d'un livre. Et ça se passe en Haïti. Donc, il y a cette espèce de réception qui n'a, en fait, quand on pense à la situation de fragilité économique d'Haïti et quand on pense à la réception littéraire, on ne voit pas nécessairement le rapport. On voit difficilement cette relation-là.
Est-ce qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui existent en ce moment?
En fait, il y a plusieurs maisons d'édition, et dans le sens où tous les imprimeurs sont des éditeurs. Imprimerie Deschamps, Édition Deschamps, Imprimerie Le Natal, Édition Le Natal. Et il y avait Imprimerie Fardin, Édition Fardin. Et aujourd'hui, il y a les presses de l'Université d'Haïti. Il y a l'édition des presses nationales. Il y a Christophe Charles, qui a toujours fait de l'édition, qui a toujours écrit, qui a toujours fait de l'édition. Et dans les années 70, c'était fabuleux. Et ce sont des éditeurs qui n'ont jamais eu un cent de subvention, puisqu'en fait, la relation avec l'État, c'est une relation, en fait, très difficile. Pour écrire ou bien pour éditer, il faut le faire contre l'État. Donc, trouver des subventions dans l'État, ça n'existe même pas dans l'imaginaire d'éditer ou bien d'écrire en Haïti. On ne peut pas écrire avec tel ministère. Donc, nécessairement, on peut pas écrire et puis dire on va écrire pour trouver une subvention. En fait, on est toujours dans le grand récit, c'est-à-dire, l'idée, c'est d'écrire contre les institutions en place. Donc, on peut pas prétendre écrire et trouver et être financé pour écrire ou bien prétendre éditer et être financé pour éditer. Ça n'existe pas.
Alors, vous êtes éditeur en Haïti et vous quittez Haïti à un moment donné, en 2001 exactement, et vous venez à Montréal. Et vous écrivez, pourtant en 2000, vous dites, en 2000, vous participez à un colloque, vous écrivez ceci, « Je vis et écris dans ce chaos ». Vous êtes encore en Haïti. Je vis et écris dans cet espace ambivalent où l'espace du réel et l'espace de la fiction s'emboîtent. Je vis et écris chez moi dans cet écartèlement de moi à l'autre, du mot à la chose. Je vis et écris dans la violence de la misère, dans l'arrogance crasse de la bêtise et dans le totalitarisme le plus abject. Et c'est là que, paradoxalement, je cherche un sens à mes mots et à ma vie. Et une année plus tard, vous quittez ce pays pour venir ici au Canada, au Québec, où vous avez déjà de la famille. D'ailleurs, vous avez étudié dans un collège qui s'appelait Canada-Haïti. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des circonstances et des raisons qui vous ont poussé à quitter Haïti?
Oh, il n'y a pas de raison particulière. J'étais fatigué. Il faut dire que j'ai étudié à l'Université Laval. J'étais au collège canado-haïtien avec des frères canadiens. Donc, j'avais une histoire, avant même de venir ici, j'avais une histoire avec le Québec. J'ai étudié à l'Université Laval. Donc, quand j'étais fatigué, je voulais venir. J'avais des amis. J'avais de grands amis ici. Mes amis étaient pratiquement ici. Donc, Stanley Payan, Daniela Ferrière, j'avais plein d'amis ici, Marie-Céliane, donc j'avais vraiment des amis. J'ai une famille ici, ma grand-mère, etc. Donc, quand il fallait venir, je suis venu là où sont mes amis. C'était plus par paresse, par facilité aussi. Donc, je suis venu ici. Et puis, donc, mais il y avait plein de contradictions en moi en ce moment parce que je me suis posé la question pendant longtemps, comment être utile à son pays? Est-ce qu'on peut être utile en dehors du territoire. Je me suis beaucoup posé cette question. Comment être haïtien en dehors d'Haïti? Ben, ça a pris du temps, mais ensuite j'ai réglé le problème. Comment être utile à ce pays? Comment aider? Comment participer à la construction du pays? Et donc, tout en étant, parce que j'étais avant très, très territorial, très, très dans la question du territoire, en pensant qu'un Haïtien devait être chez lui, devait écrire, ne pouvait pas être un écrivain japonais, il devait être un écrivain haïtien chez lui, dans son village, et essayer d'aider, de travailler. Et puis, je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a d'autres modalités d'écrivain. On peut être écrivain, on peut porter Haïti en soi. Et j'ai compris aussi qu'il y avait aussi une espèce de redéfinition dans la littérature même, avec des amis comme Edwidge Janticat, qui écrivait directement en anglais et qui est, à mon sens, l'un des écrivains les plus haïtiens que je connaisse. Et j'ai compris que les écrivains qui étaient en dehors d'Haïti étaient des fois beaucoup plus en quête de la transformation d'Haïti que ceux qui sont nécessairement dans le territoire, à l'intérieur du territoire, où il y a une ambiguïté, où il rêve aussi d'en sortir, où la fascination de l'ailleurs est très très forte. Et donc j'ai compris le double mouvement. Quand on est au dehors, on a envie de rentrer, et quand on est dans le territoire, on a envie d'en sortir. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas jouer le go-between, ne pas essayer d'être à la fois ici et ailleurs.
Peut-être que la solution que vous avez trouvée, c'est de fonder une nouvelle maison d'édition ici qui ne s'appelle plus Mémoire, mais Mémoire d'Encrier. Quel est votre projet avec cette maison? Qu'est-ce que vous voulez en faire exactement? Vous avez déjà publié je ne sais plus combien de livres, plusieurs livres, et quelle est l'extension que vous voulez lui donner à cette maison?
En fait, c'est une maison d'édition, c'est comme une relation très, je pense que c'est une relation très corporelle. On publie des auteurs, des mots qu'on aime, des idées qui sont les nôtres aussi. Et puisqu'on peut pas être partout, je pense qu'on crée une famille en créant une maison d'édition, en disant, voilà le regard que j'ai sur le monde. Donc c'est un peu ça, c'est une mise. C'est pas simple. Au-delà de la littérature, au-delà de l'ensemble des livres, il y a un combat. Le combat, c'est dire que bon, voilà, il faut faire circuler ces voix-là. Il y a un ensemble de voix. Et ces voix portent des images. Ces voix ont un certain nombre d'échos. Donc, je suis très, très sensible à la question de la diversité. Donc, les cultures sont égales, comme dans l'introduction de Glissant, on a vu ça, les cultures sont en communication. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie. J'ai compris que la périphérie, c'est une vue de l'esprit. Le centre aussi, c'est une vue de l'esprit. Et on ne peut pas être ici à Montréal et dire que le centre, c'est Paris. Le centre, c'est là où je suis. Donc, quand je suis à Port-au-Prince, et dans ce sens, je pense que les Haïtiens sont bien en avance dans l'imaginaire du centre. Parce qu'il y a en Haïti, j'ai été à Jacmel, et j'ai beaucoup appris d'un professeur qui dit, il y a deux villes au monde, Jacmel et Paris. Donc, vous voyez, le centre, c'est Jacmel, c'est là où il est. Donc, et cette idée m'a beaucoup aidé à comprendre qu'on peut déplacer, qu'on peut faire une maison d'édition en disant, je ne suis pas dans l'ethnicité, je ne publie pas des auteurs haïtiens. Ils ont un passeport haïtien, mais je publie des auteurs. Je publie, donc, je ne suis pas dans... Éviter de dire qu'on publie des auteurs qui sont dans la communauté, éviter la tolérance ethnique. La tolérance ethnique qui consiste à développer en fait une démarche très proche de la médiocrité en disant que bon, ce sont des Haïtiens, ils font des livres haïtiens, des petits livres, mais c'est le pays qui a produit Jacques Roumain, c'est le pays qui a produit Jacques-Stéphane Alexis, c'est le pays qui a produit Marie Chauvet. Donc si je publie des auteurs haïtiens, c'est parce qu'ils sont de véritables auteurs. Donc, et ça me fait penser à Alain Mabancourt. Quand j'ai publié Alain Mabancourt, personne ne le connaissait avant le prix Renaudot. Donc le regard tout de suite a changé. Puisque Alain Mabancourt avant, bon, en fait, pendant la première année, il a vendu peut-être 20-30 exemplaires de son livre que j'ai publié. Et puis 5 ans après, on me demande, en fait, les gens qui travaillent avec moi me demandent, est-ce que c'est le même Alain Mabancourt qui a eu le prix Renaudot? Vous voyez, donc, et c'est ça qui est difficile. Moi, je suis ensuite dans un corps de texte, dans un corpus. Je ne publie pas de best-seller. Quand je publie Daniela Ferrière, il faut qu'il m'aide à publier Félouine Sarr. je publie pas je dis, je publie pas un écrivain célèbre, je publie un écrivain qui entre dans une famille, qui aide la famille à s'élargir. En fait, qui prend langue avec d'autres, qui est en communication avec d'autres auteurs et qui il y a une espèce de solidarité dans le corpus, une espèce d'entraide. Et je pense que c'est ce qui fait l'importance de l'édition si les livres sont en dialogue l'un à l'autre. C'est créer le dialogue. Et créer le dialogue même avec pas seulement ce que Mémoire d'Encrier publie. Par exemple, dernièrement, au Salon du Livre de Montréal, on a fait 17 auteurs. Et dans ces 17 auteurs, il n'y a pas seulement que des auteurs de Mémoire d'Encrier. Il y a Joël Desrosiers, qui ne publie pas chez Mémoire d'Encrier, mais il est présent. Il est présent parce qu'on est en correspondance ce qu'il publie et ce que publie Mémoire d'Encrier. Il y a un certain nombre d'auteurs. Kate Limars n'est pas auteur de Mémoire d'Encrier, mais il y a cette espèce d'écho, cette espèce de dialogue. Donc c'est une mise en dialogue, c'est un regard sur le monde, un regard ouvert où il y a beaucoup d'élégance aussi. Donc élégance, solidarité, amour et puis porosité entre les cultures et les imaginaires.
Et vous arrivez à diffuser dans le monde, dans le tout monde?
Oui, on est très très présent. On a des démarches de solidarité, des démarches de proximité où on est présent partout dans la francophonie. Et puis je veux dire aussi que les lecteurs sont les auteurs font aussi partie de ce grand mouvement. Là, on va à cette île et puis c'est Laure qui travaille beaucoup pour nous, Laure Morali avec les Amérindiens. On travaille beaucoup avec les Amérindiens, mais on va être présent à cette île parce qu'en fait, que l'éditer, moi, je pense qu'il faut aller au-delà du livre. Au-delà du livre, il faut aussi rencontrer les gens. Et quand je commence à travailler avec les Amérindiens, je dois avoir une certaine légitimité. Légitimité, c'est de connaître les gens. C'est d'entrer dans la danse du soleil. Et puis, j'ai été à la danse du soleil des Amérindiens. Donc, j'ai mangé avec eux, j'ai dansé avec eux, j'ai travaillé avec eux. Je ne vais pas vous dire tout ce que je fais avec eux, mais on fait pas mal de choses. Donc, je pense qu'on est en dialogue au-delà du livre de Joséphine Bacon qui marche, mais il ne s'agit pas simplement de faire des livres, il s'agit d'entrer dans des cultures, il s'agit d'être présent et d'établir une véritable relation par rapport à l'autre, d'être dans une altérité agissante, ne pas se contenter comment je pourrais être dans cette culture dite culture des premiers peuples, et si je ne peux pas, comment je pourrais comprendre que je suis en train de publier un livre là, Naomi Fontaine, une jeune femme qui a 23 ans, et comment je peux avoir la sensation c'est le meilleur livre qui a été fait ici? Il faut que je sois dans la culture pour comprendre un certain nombre de choses. Ou bien il faut que j'aie le désir de cette culture pour communiquer ce désir de lecture. Donc c'est un peu ça le travail qu'on est en train de faire. Oui.
En tout cas, c'est un travail qui est, je crois, qui est vraiment remarquable et très impressionnant. On va quitter provisoirement l'éditeur pour parler de l'écrivain, de l'auteur. Nous allons parler surtout de ce dernier récit, mais peut-être qu'auparavant, je vais vous demander de lire quelques poèmes. Est-ce que tu as apporté des extraits, toi?
Quand tu parles de poèmes, tu dis-tu?
Oui.
Je reviens à la mer comme à la terre, comme l'amitié des lilas, comme qu'importe le hasard qu'alfeutrant la digue des siècles. J'apprivoise en tes bras l'éternité de tous les bleus, et ciel et mer, en moi debout, semés. Enfant perdu dans la foulée des hommes, chèvre rebelle au troupeau, rebelle à moi-même, dans ce jardin d'oraison, de menthe, de cannelle, de parfum, de romarin, je revendique la sorcière qui m'enfanta une nuit mauve. Je revendique la libation qui fit de moi l'orage des ciels d'octobre. S'il y a un homme, c'est ma main libre qui rencontre le monde. S'il y a une route, c'est mon corps aveugle qui cherche sa mémoire. Merci.
J'espère qu'on aura l'occasion d'en lire d'autres. Mais on va tout de même aborder ce bouquin qui m'a beaucoup beaucoup impressionné. C'est un bouquin remarquable. C'est à propos du du tremblement de terre, mais c'est un bouquin qui est une sorte de, d'hommage à Haïti et qui est quelque chose de très personnel, un témoignage très personnel. Et j'aimerais d'abord peut-être commencer par en lire un extrait, page 71. Il dit que ce qui se passe, ce qu'il ressent, c'est le télescopage de temps, présent et passé. Personne ne sait plus si le présent est un passé décomposé. Tout le monde a la certitude que le présent est un prétexte à la catastrophe. Une mauvaise plaisanterie a sapé les fondamentaux, la terre, l'eau, l'air, le feu. Les éléments se sont mués en corps flottants, fragiles et inconstants. Le temps est catapulté dans un navire à la dérive. L'imparfait ronge le présent, se rétracte le futur dans un amas boueux. La parole perd l'assise du temps. Hier, aujourd'hui, demain, rien n'a de consistance. C'était une famille, c'était un jardin, c'était une maison. Maintenant que tous les membres de ladite famille ne répondent plus à l'appel, peut-on encore parler de famille? La mère tient entre ses bras ouverts l'enfant mort. Est-ce un enfant ou un cadavre? Le temps glisse, aveugle, dans l'imprécise virtuosité du désordre. Les choses manquent d'espace pour s'étendre et s'affirmer dans leur vérité. Les corps aussi. Qui va consoler ce père qui voit mourir son fils? Il doit amener sa femme grièvement blessée à l'hôpital. Et une fois revenu sur les lieux, il creusera un trou pour le corps de l'enfant. C'est vraiment très beau. C'est une prose très sensible. Et puis, ce qu'on remarque, ce sont des images saisissantes, ce sont des tableaux. Ce récit est vraiment constitué par une série de tableaux, tous plus hallucinants les uns que les autres. Alors, il se passe ceci, l'Internet fonctionne, mais il y a un passage assez remarquable, je ne sais pas si tu vas pouvoir le lire tout à l'heure. On parle des enfants qu'on appelle les Kokora, qui sont des mendiants, et qui à un moment donné sont très heureux parce qu'ils ont trouvé des fusils à eau. Les touristes qui prennent des photos, les joueurs de domino qui continuent comme si de rien n'était, des adolescentes qui font leur pédicure tranquillement dans un petit bassin d'eau, un mariage surréaliste, le fiancé est mort, mais on continue quand même la cérémonie. Vraiment, c'est une série de tableaux extrêmement saisissants et toujours très personnels, toujours saisis par un œil qui les a vus de près, qui les revit, qui nous les rend. Alors c'est vraiment un très beau livre. Est-ce que d'abord, pourquoi ce livre-là? Pourquoi ce besoin de raconter? Parce qu'il y en a eu plusieurs livres. Il y a eu « Tout bouge autour de nous », qui est aussi un livre admirable de Dany Laferrière. Et aussi, il y a eu d'autres ouvrages sur Haïti. Et pourquoi? Alors, pourquoi ce besoin de dire? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu as voulu rendre en écrivant tout ça?
J'ai été c'était très difficile pour écrire un livre comme ça. Et c'est en parlant à Edwidge d'Anticat, et Edwidge m'a dit, et j'ai raconté ça dans le livre, et puis on a parlé 2 heures, de 11 heures jusqu'à 1 heure du matin. Il m'a dit, j'imagine que tu parles comme ça avec beaucoup de gens, donc le mieux c'est peut-être d'écrire un livre pour ne pas en parler à tout le monde, va te poser les mêmes questions, et 10 ans après, le mieux c'est d'écrire un livre, de mettre en mots tout ça, parce qu'on parlait, et on parlait surtout du goudou-goudou, on parlait pas du séisme, et j'ai beaucoup aimé cette intelligence haïtienne à contourner le mot pour que la chose n'existe pas. C'est-à-dire que dire le mot, c'est inventer la chose, c'est faire en sorte que le séisme existe. Et comme on vit d'un malheur à un autre, le séisme est un malheur, on n'apprend pas à l'école le malheur. C'est que Haïti vient de célébrer le carnaval, là, on est dans le carnaval. Donc on est en train de détourner le malheur, détourner le choléra, détourner le séisme. Donc c'est un peuple qui vit d'un détour à un autre. Je me suis dit, ce serait intéressant de montrer cette extrême humilité, parce que quand on est arrivé en Haïti, c'était des écrivains. Donc, on a pensé construire, on a pensé regarder de près l'imaginaire de ce pays. Et par la suite, on s'est retrouvés, mon ami Dany et moi, on s'est retrouvés à plat ventre. Donc, et puis, on était un élément parmi les autres éléments. On a pu constater, on a pu vivre que la condition humaine, c'est une condition d'extrême humilité. Et c'était difficile parce que nous, 5 minutes avant, on préparait, on pensait qu'on allait dire « je, j'ai écrit, je suis, j'ai dit », etc. Et le « je » a complètement été aboli pendant ces 35 secondes. Et on a vu la vie et la mort. Et on ne savait pas trop qu'est-ce que c'était la vie, qu'est-ce que c'était la mort. Donc il y a une perte de sens et qui était fondamentale et qui nous a fait comprendre que la condition humaine, c'est une condition d'extrême humilité. Donc et ça a servi à quelque chose. Ça a servi à une compréhension d'Haïti, ça a servi à re-questionner Haïti, et pour ma part, ça a servi à délier ma langue par rapport à Haïti. Il y a peut-être plein de choses que j'ai osé là, peut-être que je n'aurais pas osé avec un regard si franc, si sincère, parce qu'en fait, je me dis quand, par rapport à la mort, par rapport à un événement tel, c'était le moment de peut-être questionner 2 siècles d'histoire d'Haïti, 2 siècles de ségrégation, de jeter un regard global sur la société, mais un regard sans complaisance. Et je pense que c'était un peu ça. C'est un texte assez testamentaire dans la mesure où on dit il y a une vieille société, j'avais l'impression qu'il s'écroulait le 12 janvier, et il y avait quelque chose qui ressemblait à une société nouvelle le 13 janvier. Quand j'écoutais les gens parler, parce que le 13 janvier, c'est comme si on a eu qu'on a eu le cahier de doléances, qu'on a eu un grand cahier où les Haïtiens écrivaient leur propre histoire et la perspective changeait, où les gens disaient tout le monde joigne. C'est peut-être pour la première fois dans l'histoire du pays qu'il y a un événement qui touche aussi bien le riche que le pauvre. Donc, où les gens se sentent haïtiens dans ce malheur-là et à part égale. Donc, c'était une nouvelle histoire qui, pour moi, commençait le matin du 13 janvier, parce qu'il n'y avait pas de d'État, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait absolument rien, la communauté internationale n'existait pas. C'est 3-4 jours après, et les gens se sont organisés. Les gens enterraient leurs morts, et puis les gens s'occupaient des enfants. Donc la leçon aussi, c'est cette leçon de vie par rapport à l'extrême, cette élégance d'un peuple qui s'est mis debout, qui a enterré ses morts, donc seul. Et j'ai vu ça, et j'étais complètement dans l'admiration. Parce que je me suis dit, dans les grandes villes où je vis, par exemple comme ici, face à une catastrophe pareille, est-ce qu'on aurait assez d'élégance pour faire face? Est-ce qu'on a appris à faire face à l'extrême, ici, dans notre vie, dans notre quotidien? Et là, j'ai trouvé les Haïtiens, vraiment. J'ai trouvé, il y a une leçon de vie. Il y avait une leçon de vie quand j'ai vu comment les gens ont été debout.
D'où le titre.
Oui.
Qui est en créole, et justement, il y a un des grands défenseurs du créole qui est disparu. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce collège fondé par M. Vernet qui est disparu, et quelle est la situation de l'enseignement du créole maintenant?
Et en fait, j'étais à la faculté de linguistique appliquée, et c'est ça qui m'a fait, parce que Vernet était, il y a une histoire... Une histoire là où j'ai parlé de Vernet, parce que ce qui est intéressant, c'est que à l'hôtel où l'on était, on n'a pas pu sortir, mais le télédiol a bien fonctionné. Le télédiol, c'est le téléphone arabe. Donc, on savait tout de suite que le palais est tombé. On savait tout de suite que l'hôtel Montana, on avait des informations pertinentes sur les Hogan. Mais les téléphones ne fonctionnaient même pas. Donc on a l'impression que les informations passaient d'une bouche à une autre et puis ça circulait partout dans la ville. Et effectivement, ça s'est transformé jusqu'à nous. Mais l'information, ça sautillait de bouche en bouche, de case en case, jusqu'à nous. Et là, j'ai appris que la faculté de linguistique était complètement à terre, et Pierre Vernet était mort. Pierre Vernet, c'était mon professeur, et Pierre Vernet, il avait un combat. Son combat, c'était le créole. Moi, j'avais pas compris comment un homme pouvait avoir un combat Et le seul combat au niveau de la société, c'était la langue créole. Et c'est un jour que j'ai compris que c'était important quand j'ai entendu une femme haïtienne qui dit, une dame bourgeoise haïtienne qui dit, quand le fils de la bonne parle la même langue que mon fils, qu'est-ce qui va les distinguer? Quand ils parlent la même langue. Donc s'ils parlent la même langue, ils pourront prendre langue, comme on dit en créole. Prendre langue, c'est le baiser mouillé. Ils pourront jouer ensemble, ils pourront s'aimer, s'ils parlent la même langue, donc c'est fondamental. Ils pourront être en dialogue. Donc la fille à la télévision, c'est ce qu'elle disait. Si les deux parlent la même langue, qu'est-ce qui va différencier les deux enfants? Et là, j'ai compris que le combat de Vernet était un combat réel, était un véritable combat. Et à chaque fois qu'il parle, c'était le créole à l'école, le créole, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Haïtiens commençaient à étudier directement en français dans un pays créolophone. C'est comme si les Québécois allaient à l'école en allemand. Donc la question du créole est une question fondamentale et aucun créateur ne peut faire économie de cette langue. Et dans Haïti-Kembe, il y a beaucoup de créoles. Et je pense que dans la langue écrite il y a une musique derrière, dans l'imaginaire de la langue, l'imaginaire que l'on trouve derrière la langue, que ce soit chez La Ferrière, que ce soit chez Marie-Célie, que ce soit chez Desrosiers, que ce soit dans Jacques-Séphène Alexis, on rencontre cet imaginaire créole, bien avant la créolité, quand on lit Jacques Roumain, on voit Jacques Roumain, cet imaginaire créole présent, et on voit la prégnance de l'imaginaire créole, bien avant Raphaël Confiant, bien avant Chamoiseau.
Et est-ce que il te reste de cet événement, tu es resté combien de temps? 2 semaines? 3 semaines?
Non, 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 même pas. Je suis resté une semaine.
Une
Je suis
semaine.
resté, ouais.
Et quelle image te reste surtout là, en ce moment, lorsque tu repenses à l'événement?
Aussi, ça change de jour à l'autre. Ça change. Des fois, c'est l'image des jeunes qui sont, par exemple, c'est le choix de la vie. Et par rapport à la catastrophe, tout le monde pense à la catastrophe, et puis il y a un pays qui vit. Et ce que j'ai appris, et puis ça m'a fait, j'étais content, c'est que on a perdu 300 000 Haïtiens, et 9 mois après, sous les tentes, ils ont remplacé les 300 000. Il y a des enfants qui naissent. Donc les gens vivent, les gens font l'amour, les gens. Donc ce qui est, je pense que, parce que quand on parle d'Haïti souvent, on parle d'Haïti, on oublie qu'il y a un espace de vie. Il y a un espace, effectivement, on est dans le champ de la mort, mais aussi il y a un espace de vie. Et quand on regarde la télévision, bien quand on lit certains journalistes, on voit que tout est dans un scénario catastrophique. Donc il y a eu le carnaval de Jacmel, ça fait une semaine. Hier soir, c'était le carnaval de Port-au-Prince, mais on en a très peu parlé. Donc c'est un peuple qui dit, bon, il faut qu'on danse, il faut qu'on rit, il faut qu'on jouisse. C'est une relation différente. Donc, je pense qu'il y a l'imaginaire des médias qui nous enferment dans le misérabilisme qui est un petit peu, qui n'est pas notre propre image, l'image qu'on veut donner de nous-mêmes.
Oui, c'est ce qu'on remarque aussi dans les livres de Dany Laferrière, cette espèce de réaction contre un imaginaire misérabiliste. Et toi, tu n'aimes pas le mot résilience. Je sais, il y a tout un passage là qui, à propos du mot résilience, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi?
Oui, parce qu'en fait, il y a de jeunes Haïtiens de 9, 10, 11 ans, et puis qui parlent et puis qui disent, bon, oui, on est résilient, mais en créole, hein. Et le mot traverse, le mot vraiment traverse, parce que à force de dire que les Haïtiens sont résilients, on a l'impression qu'ils sont des bouts de fer, que ce sont pas qui a une espèce de vice d'humanité. Qu'ils ne se sont pas des gens comme nous. Eux, ils sont plus habitués à la douleur. Ils sont plus capables d'accepter la douleur. Donc, je pense qu'il faut peut-être couper, il faut peut-être couper cette espèce de passion de la douleur, comme quoi les Haïtiens aimeraient vivre cette douleur, ou bien s'habituent tellement vite à cette douleur qu'ils aiment ça, qu'ils reproduisent et dans leur vie quotidienne cette douleur. Effectivement, c'est une société assez violente qui produit où le cycle de violence est permanent. Mais il n'y a pas, c'est pas un choix de société, c'est pas les Haïtiens qui disent je veux ce qu'il faut me donner, ce que j'aime, c'est la douleur. On a l'impression quand les gens parlent, c'est comme si un enfant haïtien aurait besoin moins de paix, moins d'affection qu'un enfant québécois, qu'un enfant hollandais. Moi, je pense qu'il faut les considérer comme des enfants. Et quand on dit les Haïtiens, et l'altérité, c'est que l'autre est en nous. L'autre n'est pas différent de nous. L'autre, c'est nous. Il faut pas, et ce qui est souvent difficile, c'est que, des fois, on dit on va faire des écoles, et c'est souvent des gens, des ONG bien intentionnés qui font des écoles, et il n'y a pas de cours, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de... Vous voyez, donc c'est pratiquement impossible. Donc, même dans la question de l'espace, donc la réflexion... Donc, je voudrais qu'on pense à l'école, et puis on dit l'école, c'est comme si on allait le faire ici. Donc, éviter que l'haïtien soit dans une catégorie particulière. Donc la résilience cache en fait une vision discriminante de la vie. La vie de l'haïtien est, capable de telles choses, d'assumer la douleur, et que le corps de l'haïtien...
Et tu n'accepterais pas non plus cette idée de malédiction sur Haïti?
Oh non, je pense pas. Je pense qu'il y a des conditions qui l'ont produit. Il y a 2 siècles d'esclavage, c'est pas la malédiction. Si on donne à Québec ces siècles d'esclavage-là, si on donne à Québec ces colonisations-là, si les Américains débarquent, les Américains ont débarqué, ils sont allés à la banque centrale, ils ont pris toute la réserve d'or. Personne n'a demandé où sont ces réserves d'or. Les Français ont débarqué, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Donc il y a en fait une relation au monde qui est une relation très 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 difficile. Donc on ne peut pas parler de malédiction. On peut parler de mal développement. On peut parler de pourquoi Haïti serait maudite. Qu'est-ce que Haïti a fait pour mériter cette malédiction? Donc, vous voyez, donc, je pense qu'il faut que cette communauté prenne ses responsabilités, parce que on vit dans un pays où, dans les années, où à chaque fois quelqu'un avait un livre chez lui, il était susceptible de, il pouvait mourir, parce que la dictature de Duvalier et détestait pratiquement tout ce qui était livre. Donc il y a tout ce qui était intellectuel, et c'est pourquoi les intellectuels haïtiens, les élites haïtiennes sont un petit peu partout en Afrique, et ici ils sont en Amérique du Nord, partout. Donc il y a une histoire qui a mené à la désertification d'Haïti. Donc je pense pas qu'on puisse parler de malédiction. Donc je pense qu'il y a des situations particulières, des situations objectives qui ont conduit à la désertification d'Haïti, qui fait que 80% des cerveaux en Haïti sont à l'extérieur d'Haïti. Donc c'est un peu difficile de construire un pays quand 80% des forces vives sont à l'extérieur. Mais il y a une histoire.
Oui. Au moment même où le lendemain de l'événement, je voudrais qu'on revienne à cette rencontre avec Franck Étienne que tu racontes et que Dany avait raconté aussi. Et alors Franck Étienne, le grand écrivain, il est évidemment catastrophé, il est choqué, il est d'autant plus qu'il avait écrit une pièce de théâtre dans laquelle il était question d'un cataclysme, dans laquelle il prévoyait d'une certaine façon quelque chose arriverait. Donc il se sentait presque coupable pas directement, mais enfin indirectement. Il se demandait s'il allait jouer sa pièce, et justement quelqu'un lui demande qu'est-ce qui a changé, et Dany lui répond rien n'a changé, ne te laisse pas intimider par le séisme, continue à faire ce que tu sais faire, il ne reste que la culture pour mettre ce pays debout. Donc il reste la culture. Par contre, toi tu écris à la page 38 exactement, dans un désastre général, il y a toujours le désastre de soi. Alors, comment concilier cette espèce de désir de reconstruire, puis en même temps aussi cette conscience du désastre. Comment tu arrives à vivre
ça? En fait, quand on parle de la question, au-delà de Franck-Étienne, quand on est arrivé chez Franck-Étienne le matin, c'était un paysage difficile. Parce que Franck-Étienne a vécu, et dans son œuvre, vous allez voir, quand vous lisez l'œuvre de Franck-Étienne, il a vécu pour construire ce palais qui est une espèce de palais des nuages quand on est arrivé, où cette grande maison où tout ce qu'il est dedans, en fait près de 5000 tableaux, tous ses livres, en fait toutes ses archives, en fait il est là et puis cette maison n'existe plus. Donc, et cette maison, c'est son pays, il s'est complètement barricadé du pays. Quand on connaît la maison de Franck-Étienne, c'est un bunker. Les murs pour entrer dans cette maison, c'est des murs de 7 mètres de haut. Donc, il est pratiquement, il n'y a plus de murs après le tremblement de terre. Donc, il est complètement vidé, vidé de lui-même, vidé de ses rêves. Et il a eu mauvaise conscience parce qu'en fait, c'est comme s'il avait prévu ça dans cette pièce-là, il avait prévu. Et puis, donc, c'était un peu difficile. Et qu'est-ce que, par rapport, dans cette catastrophe-là, et c'est l'individu existe de moins en moins. C'est-à-dire, le regard sur soi, c'est un regard ébréché par ce collectif qui tombe. C'est pas la maison de Franck-Étienne. C'est-à-dire que le regard sur soi, qu'est-ce qu'on est par rapport à ce pays où tout le collectif n'existe plus, où on a l'impression que ce pays, l'existence du pays est en jeu. Donc, et c'est ça qui est posé, c'est ça que j'essaie de poser, c'est la relation de soi par rapport à ce collectif qui est miné par le séisme, miné dans sa propre histoire. Et Franck-Étienne est peut-être l'exemple le plus achevé de ce qu'on appelle la reconstruction. Il n'a attendu personne. Effectivement, il a joué sa pièce partout au monde. Et puis, il a reconstruit lui-même sa maison. Il s'est mis à reconstruire lui-même sa maison. Toute la communauté parle de reconstruction et ça avance lentement. Et pour Franck-Étienne, ça avance mieux. Ouais, donc je pense que c'est un exemple colossal, l'exemple de Franck-Étienne.
Il y a aussi un passage très, très éloquent, très intéressant, sur la peinture haïtienne, parce que je sais que tu as écrit sur la peinture haïtienne, et bon, elle est connue mondialement, internationalement, et puis tu dis que finalement il n'y aurait qu'un seul sujet, enfin un sujet privilégié dans cette peinture haïtienne, c'est le paradis. Alors on représente, ce sont presque toujours des variations sur le thème du paradis. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce phénomène?
Oui, parce qu'il y a un espace utopique qui est très fort, que ce soit chez Jacques-Stéphane Alexis dans Compère Général Soleil, où il parlait de pêcheurs d'étoiles, et Jean-Claude Fignolet ensuite allait prendre ce thème chez Jacques-Stéphane Alexis pour montrer que comment en fait en Haïti le réel est souvent déréalisé, où on a l'impression que, comme Maximilien parle de la double scène de la représentation, les Haïtiens peuvent vous dire ce que vous ne voyez. Ce que vous voyez là n'est pas vrai. Donc vous voyez le ciel et le ciel est bleu et ils vous disent ce que vous voyez là n'est pas vrai. C'est comme s'il y a une couche de réalité derrière la réalité qui est beaucoup plus vaste. En fait, c'est ce que vous ne voyez pas qui a peut-être cette réalité-là. Donc on est toujours bailloté entre le pays réel et le pays rêvé, entre le réel et le côté utopique. Donc la peinture naïve haïtienne a, comme dans la littérature, on a eu l'impression à partir des années 50 que tous les Caraïbéens voulaient écrire cahier d'un retour au pays natal. Et il y a eu le fameux tableau le Paradis terrestre de Wilson Bigot, et on a eu l'impression que les Haïtiens, dans la peinture naïve, voulaient recréer cet espace imaginaire qui est un espace où on peut voir, on voit tous les animaux du monde, on voit une espèce de conciliation avec soi, une conciliation avec la nature et c'est très beau. C'est donc, il y a une fonction utopique de cette peinture qui correspond beaucoup à ce que vivent les gens. Et je pense qu'il y a, si vous voyez par exemple Jacques Mel de Wilson Bigot, il y a un peintre qui n'a fait que peindre une seule ville, c'est sa ville, c'est comment il s'appelle, et c'est Jacmel, il préfète Dufour. Donc il peint Jacmel, donc il a peint presque peut-être 10 000 Jacmel, c'est la même ville. Mais c'est une ville extraordinaire où on voit le ciel. Des fois, le ciel est à la place de la terre. Des fois, dans le ciel, c'est des arbres. Des fois, vous voyez des gens danser dans le ciel. C'est très surréalisant aussi. Donc, c'est une manière de jouer avec le réel, de contourner le réel. C'est-à-dire de dire au réel, de dire peut-être à la fin, tu n'auras pas raison de nous, de dire au mal-vivre, à la mal-vie, tu n'auras pas raison de nous. Donc, je pense que c'est un défi même au réel, cette peinture. Donc, cette peinture, elle est impressionnante. Elle constitue, je pense, le défi que lance l'imaginaire haïtien par rapport à la vie réelle. Moi, je suis toujours, en fait, dans la contemplation devant une mère de famille qui éduque peut-être 9, 10 enfants. Et puis, ses enfants vont à l'école et il n'y a pas de gémissement. Et ces enfants vont devenir, auront un métier. Et donc, il y a la vie, elle est dure, mais les gens savent que la vie est dure. Donc, les gens ne se plaignent pas. Et les gens trouvent le temps de rire, de danser, malgré les difficultés réelles de la vie. Donc, je pense que la peinture et primitive haïtienne est quelque chose de fondamental, même au niveau d'utilisation de l'espace. L'utilisation est plutôt une utilisation circulaire, l'espace est plutôt circulaire, donc on a l'impression qu'il y a une déréalisation. Les arbres sont beaucoup plus que des arbres, et les arbres, ça pourrait, vous pouvez voir les arbres qui sont en train de marcher, vous pouvez voir les animaux, vous voyez que c'est très très, vous pouvez voir un corps d'animal, et puis la tête, c'est un Québécois. Donc c'est extraordinaire pour voir comment il y a cette liberté au niveau de l'espace, au niveau de l'utilisation de l'espace, souvent ce sont des gens qui peignent leurs lois. Ce sont pas des gens qui ont appris à écrire et qui écrivent dans la peinture. C'est ça qui est souvent difficile. Hector Hippolyte savait écrire à peine. Donc, il y a une tradition picturale haïtienne, la peinture primitive, qui est une très haute tradition. Et avec Tiga, le peintre qui est décédé il y a 3 ou 4 ans, Tiga, avec l'école du soleil, Saint-Soleil, André Malraux a trouvé là l'expérience, en fait, la plus saisissante du siècle. C'était des villages de paysans à qui Tiga a donné de la surface. Et puis les gens ont peint leurs rêves. Et les gens peignaient. Et les gens s'amusaient. Et ça faisait, et c'est exposé partout au monde, et les gens on disait pas aux gens, ça c'est rouge, ça c'est des couleurs complémentaires, etc. Les gens ont eux-mêmes trouvé en eux les couleurs avec lesquelles il faut peindre, et puis sans mettre.
Je crois avoir lu quelque part que Dany Laferrière disait que le temps de la peinture, enfin, Haïti a été très connu par ses peintres, par sa peinture à un moment donné, et que maintenant, le pays est davantage connu par ses écrivains, ou en tout cas sera davantage connu par ses écrivains. Il y aurait eu un temps de la peinture, l'expression comme expression artistique, et que maintenant, ce temps-là serait plutôt celui des écrivains. Qu'est-ce que tu en penses?
En fait, dans les années 40 et 50, c'était le grand moment de la peinture haïtienne jusqu'aux années 70. Et aujourd'hui, au niveau international, il y a une vague, un mouvement haïtien très très fort. Il faut simplement regarder ces deux dernières années à Saint-Malo, où la présence haïtienne, elle est très 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 forte. Il faut voir même au niveau de ce qui paraît en France, dans toutes les maisons d'édition en France ont quelques auteurs haïtiens. Donc dans la francophonie, Haïti, je pense, est ce qui il y a un désir de lire ce qui se passe en Haïti. Il y a un désir de redécouvrir la littérature haïtienne, il faut dire qu'il y a un désir de découvrir Haïti dans son intimité. Et la meilleure manière de découvrir Haïti, un peuple dans son intimité, c'est par la littérature. Qu'on peut découvrir vraiment, je pense, un peuple dans son intimité, c'est par la littérature. Effectivement, il y a un mouvement littéraire haïtien très fort, et ceci est dans la déterritorialisation, que ce soit ici, dans toutes les villes du monde, on a l'impression que Haïti produit et que Haïti écrit, et que l'image la plus forte d'Haïti, c'est à partir de ces écrivains. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on veut rester dans le temps post-séiste, c'est que pendant le séisme, il y avait un festival littéraire en Haïti. Et comme il y avait un festival littéraire en Haïti, donc Haïti, l'image la plus forte d'Haïti, c'était pas en fait le gouvernement, c'était pas l'État. Ce qui était debout après le séisme, c'est les écrivains haïtiens. On a vu ça un petit peu partout. Ceux qui témoignaient réellement ici et ailleurs, ce sont les écrivains haïtiens. Donc, et aujourd'hui, peut-être, je pense que le discours d'un écrivain haïtien est beaucoup plus important que le discours d'un politicien qui est complètement délégitimé. On sait que ça tourne en rond, etc. C'est pas le discours de Bill Clinton qui est aujourd'hui important. Quand Bill Clinton dit « nous allons faire d'Haïti un pays Wi-Fi », je pense que les gens ont beaucoup plus tendance à écouter, à légitimer la voix des écrivains haïtiens qui sont très très concernés, qui essaient peut-être d'aller vers une construction d'Haïti, tout en évitant le rôle qu'avait un écrivain comme Jacques-Stéphane Alexis, un écrivain comme Jacques Roumain, mais en témoignant sans entrer dans une espèce de responsabilité politique avec un nom précis. Mais aller dans dire ses propres mots pour aller vers une reconstruction globale, pour éviter un certain nombre d'errances et de déviations dans le discours sur la reconstruction.
Quand on t'écoute parler, on a l'impression que tu es toujours en Haïti, que tu n'as jamais quitté ce pays. Est-ce que tu te considères comme un exilé ou est-ce que tu te considères comme... disait Émile Ollivier, un schizophrène heureux, comment décrirais-tu ta situation?
Bon, je pense que je suis en dehors d'Haïti, mais Haïti ne m'a pas laissé. Donc, c'est-à-dire que je suis, en fait, je suis dans, en fait, avec d'autres peuples. Je suis, quand je suis au Sénégal, je pense que je suis très, très en quête de ce qui se passe au Sénégal. C'est vrai que Haïti, c'est ce que je connais peut-être le plus. Donc, ça me touche beaucoup, ce qui se passe en Haïti. Mais, en fait, je suis pas dans une posture nationaliste, c'est-à-dire que très, très fermé par rapport aux autres peuples. Je comprends d'autres combats. Je suis aussi dans d'autres combats. Mais Haïti fait partie d'un combat privilégié parce que je pense qu'il faut rectifier un certain nombre de choses, un certain nombre de discours. Et c'est pourquoi il y a un livre sur lequel j'ai travaillé qui me paraît important. C'est Refonder Haïti. Comment parler d'Haïti? Comment parler de reconstruction sans refonder? Sans dire, en fait, entre les Haïtiens, quel type de contrat, quel type de société? Parce qu'on peut pas reconstruire Haïti en dehors des Haïtiens. Il faut que les Haïtiens puissent, entre eux, dire quel type de contrat social, quel type de société on veut. Si on ne sait, est-ce qu'on veut cette société ségrégée, qu'on a longuement connue, ou bien est-ce qu'on veut quelque chose d'autre comme société? Donc, et trop souvent, on n'a pas laissé parler. Il y a trop de porte-parole. Il y a trop de gens qui parlent pour les sans-voix. Et ce qui serait intéressant, c'est de laisser parler les gens. Et c'est ça qui est un petit peu intéressant dans changer de perspective, éviter les porte-paroles et aller directement vers les gens et essayer de démultiplier la parole pour faire qu'il y ait beaucoup plus de voix. Et dans cette perspective éclatée, la vérité, je pense, peut surgir.
Donc tu es optimiste malgré tout.
Ah, c'est un métier. Si je dois me réveiller le matin pour continuer, pour venir ici, pour affronter la tempête, ici on doit être optimiste. Il n'y a pas de soleil.
Avant de passer aux questions, est-ce que tu voudrais nous lire autre chose que,
je lis un petit bout. La terre a tremblé 206 ans après l'indépendance du pays. La terre a tremblé. Personne ne connaît cette phrase pourtant si simple et si énergique. La terre est un chant d'espérance. La terre est l'hymne des vivants, l'ancrage des corps à la racine, l'embellique du monde. De quelle terre es-tu? Chaque terre a ses traces d'agonie, ses tragédies et ses paradis. Chaque terre a aussi en elle la présence de l'enfance têtue et alléchante. La terre est une amie qui protège. La terre est une amie qui console et nourrit. Dans la religion vaudou, on ne boit pas sans saluer la terre, sans faire son chapeau bas, honneur, respect. À la naissance, notre cordon ombilical est planté dans le corps d'un arbre pour grandir notre souffle et pour regarder droit dans les yeux le ciel et les étoiles. Au jour de notre mort, notre âme retourne en terre guinée, au pays de nos origines, où les chasseurs d'esclaves avaient ligoté nos corps pour les empiler dans les bateaux négriers. Quand on boit, on jette par terre un signe de respect et de reconnaissance, deux gouttes de sa tasse de café, deux gouttes de son verre de rhum ou de clairin blanc pour rester connecté, pour dire merci aux dieux, aux lois, aux saints et aux invisibles, pour célébrer la terre, pour faire corps avec elle, pour qu'elle embrasse à son tour notre présence, pour retourner à la terre, pour être le fruit et l'arbre, pour être la fleur et la plante. Puisque tout naît de la terre, tout reviendra à la terre. C'est la terre qui nous aidera à gouverner la rosée, à être en lien avec nous-mêmes, à entrer dans la profondeur des matins. Dans la ville, la rue la plus célèbre s'appelle la rue de l'enterrement. Au bout de cette rue se dresse naturellement le cimetière. Au portail du cimetière, tout le monde connaît par cœur ce sermon qui sert de prière quotidienne. Souviens-toi que tu es poussière, et dans la poussière tu retourneras. La terre a tremblé en moins d'une minute, les hommes ont tremblé avec, et tout est devenu poussière. La terre n'en finit pas de tout réduire à l'humilité. Jésus, Marie, Joseph, grâce la miséricorde, la terre n'est plus ferme. Quel pied de nez à la langue française? Qui donc osera, après le goudou-goudou, utiliser l'expression terre ferme? Haïti s'était glissé, tout ne cesse de glisser, la terre, les bêtes, les humains, les idées, les passions. Merci.
Merci. Alors maintenant, la parole est aux auditeurs, si on a quelques temps pour poser des questions. Oui, madame? Oh, il faut prendre le micro. Là. Oui.
Bonsoir. J'aimerais vous féliciter, monsieur Saint-Éloi, pour ce que vous faites avec Mémoire d'Encrier, nous faire découvrir des auteurs talentueux, des textes extraordinaires. Ma question, c'est concernant, vous avez parlé un peu du créole, j'aimerais vous entendre parler sur le français. Il me semble que le français parlé en Haïti est si beau. Quelle est la place que vous voyez au français? D'après ce que j'ai compris, j'ai peut-être mal compris, vous voyez que qu'il y ait une plus grande place au créole qui soit enseigné. Alors, est-ce que ce serait pour vous la langue officielle qui serait le créole ou le français?
En fait, si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que le créole, Haïti est un pays ségrégué, donc le créole fait partie, en fait, les questions linguistiques entrent dans cette ségrégation-là, c'est-à-dire, quelle langue tu parles? Si tu parles le créole, tu habites à tel endroit, si tu parles le français, etc. Bon, ça commence à changer avec l'anglais, parce que les Haïtiens sont en train de parler toutes les langues, même le mandarin, et ce qui est tant mieux. Donc le français c'était connoté socialement, donc vous pouvez pas parler le. On disait aux gens en Haïti, exprime-toi, c'est-à-dire quand les gens parlaient le créole, et c'est souvent la seule langue, ils sont créoles, créolophones, monolingues. Donc c'est une violence parce que c'est la seule langue de la personne. Et ici il y a quelqu'un qui disait le créole, c'est comme si c'était pas une langue. Donc et souvent on entend ça, et c'est la langue de 90% des gens qui ne parlent que ça. Donc c'est un petit peu, c'est une violence. C'est en fait la mise en parenthèse de ces gens-là même, de ce qu'ils sont. donc qui respectaient les gens. Il y a beaucoup de... En fait, la dictature sous Duvalier, tous les discours étaient en français. Et même la justice était rendue en français pour des créolophones. Il y a des gens qui étaient condamnés, qui ne comprenaient pas. Parce que la justice était rendue en français. Donc vous voyez, donc il y a... Ceci dit, bon, souvent il y a beaucoup de démagogie en disant il faut créer un pays créole et créole, etc. Dernièrement, il y a un leader qui parlait et puis on lui dit il faut parler en créole, il faut... Donc vous voyez, il y a une dictature aussi des fois du créole, mais ceci dit... Je pense que c'est fondamental. Si on veut penser à une sphère de citoyenneté élargie en Haïti, il faut poser la question du créole.
Merci. Autre question ou commentaire? Gilles Dupuis.
Oui, René, c'est au sujet, en fait, du livre Haïti Kembella, qui, je pense, veut dire « Redresse-toi » ou « Tiens bon ». Je ne sais pas comment on traduit exactement Kembella, parce qu'il me semblait qu'il y avait les deux sens suggérés dans le livre, soit « Redresse-toi »,« Tiens bon », mais peu importe. Mais c'est le statut même de ce livre. Je ne l'ai pas encore terminé, hein, je vais être très franc. J'ai lu la moitié jusqu'à maintenant. Je suis vraiment pris par ce récit. Et je me demande, est-ce que... Je ne vais pas classer, jouer le professeur d'université qui veut absolument trouver la bonne case générique, mais il y a du témoignage, il y a du reportage, il y a du récit, il y a de la poésie. On n'a pas le classé, mais toi-même, comment tu perçois ce livre-là dans ta propre production? Il me semble que c'est quelque chose de tout à fait différent de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et juste t'entendre parler un peu du statut même du livre.
En fait, c'est un livre atypique. Tu as complètement raison. Il n'y a pas de gens assez. Il n'y a pas vraiment de gens pour dire bon, c'est un récit, c'est un témoignage. Donc, il y a une grande part de récit, une grande part de témoignage. Des fois, c'est l'enfance. Des fois, ça n'a absolument rien à voir. Des fois, c'est la voix de la grand-mère. Moi, ce que je voulais, c'est vraiment un éclatement. Et Alain Mabanko a écrit sur ce livre en disant et il a tenté quelque chose. Que, en fait, en disant que c'est un livre écrit par la voix populaire, je voulais faire passer un certain nombre de voix, et c'est un certain nombre de voix et d'images, et c'était un peu ça, je pense, qui change, éclater les perspectives, et que ce ne soit pas seulement ma voix, c'est associer ma voix, et surtout ne pas trahir la voix des gens que j'ai vus, ne pas trahir la voix ou les voix que j'ai vu autour de moi, que j'ai senti autour de moi. C'est donner voix à ces voix-là. C'est donner écho, sans être que le porte-parole. Donc, vraiment donner pleinement à ces voix-là. Donc, faire en sorte que ces voix circulent librement.
Voilà. Oui. Peut-être il faudra d'abord commencer par dire un grand merci à ceux qui organisaient ce moment extraordinaire. Alors là, je reviens sur la question de la langue, car je ne pense pas que madame, à moins que je me trompe lourdement, je ne pense pas qu'elle soit satisfaite de la réponse qu'a donnée monsieur Saint-Éloi, que j'aime bien par ailleurs, enfin le travail surtout dans le domaine de l'édition. Alors là, ça fait un petit moment depuis que la question de la langue revient sur l'espace québécois. Et ça sent pas bon ça, de plus en plus. Ça ne sent pas bon dans la mesure où une question qui a été résolue depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire depuis 25 ans, depuis la chute des Jean-Claudistes, tend à revenir par un ensemble d'amis qui se disent tantôt linguistes, tantôt poètes, tantôt littérateurs. Et je vois que M. Saint-Éloi commence à se laisser... enlisé, pour ne pas dire engouffré, dans ce discours presque démagogique. La mesure où, et c'est pas bon, parce que quand vous parlez poésie, c'est très bien, mais quand vous arrivez à dresser un discours qui n'est pas le vôtre sur la question de la langue, ça sent vraiment pas bien, dans la mesure où Haïti est d'abord, mais alors là, vraiment, est d'abord une terre francophone. Que l'on parle créole, très bien, ma mère, mon frère, tout le monde parle créole, mais Haïti n'est pas que créolisant. C'est d'abord la terre, peut-être même la seule dans cette Amérique francophone où je suis très heureux que ce soit d'abord cette, cette amie québécoise qui l'a dit, moitié haïtienne en plus, qui l'a dit. C'est-à-dire, Haïti a toujours veillé à ce que cette tranche d'histoire soit toujours debout. Parler une langue, en tout cas le français, n'est pas parler la France. Autant pour quelqu'un qui parle anglais, c'est pas parler l'Angleterre, c'est pas parler les États-Unis. Parler une langue, c'est pouvoir s'approprier à la fois sa pensée, sa grammaticalité. Et Haïti, justement, a toujours veillé en sorte que la pensée de la langue, en tout cas pas celle de la France, soit déterritorialisée, soit pétrie par son imaginaire. Et je comprends pas pourquoi certains littérateurs, j'ose appeler maintenant des démagogues, tendent à faire ce schisme, même pas dichotomie, mais cette déchirure entre le créole, qui est pour moi encore et demeure dans un stade, c'est-à-dire primaire, où les grands, enfin ce que nous appelons les grands littérateurs haïtiens, n'écrivent qu'en français. Pourquoi? Parce qu'ils savent justement que c'est toujours, encore et toujours, les mêmes types qui vont les lire. C'est-à-dire les types qui sont à la fois en Haïti et ceux qui sont à l'extérieur. Si vous voulez écrire en créole, écrivez-le. C'est-à-dire que vous allez voir que ce sont là...
Excusez-moi, est-ce qu'il y a une question?
Mais la question, c'est que c'est la suivante. C'est-à-dire, demandez à ceux qui défendent le créole combien de textes ont-ils déjà publiés dans cette langue et qu'est-ce que c'est leur lectorat en Haïti. Et il ne faut pas tomber dans cette démagogie, je vous en prie. Je le dis parce que je suis québécois aussi, étant haïtien.
Merci. Bon,
Avant que vous répondiez à la question, moi, je m'en souviens quand j'étais en Haïti. J'ai appris à aimer cette langue à travers la publication de Franck Étienne de Desafi. Alors, je pense que le créole, au niveau littéraire, a une place assez significative dans la littérature haïtienne.
Bien sûr que oui.
Je te laisse répondre
merci.
Après ma question.
Et Awol, merci. C'est une question fondamentale pour préciser un certain nombre de choses. Et moi, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur la littérature créole avec Maximilien Laroche, l'émergence de la littérature créole, où j'ai le plus lu. En fait, de tous ceux qui sont ici, je prétends avoir travaillé beaucoup plus sur le créole. Ça a pris 2 ans de ma vie à l'Université Laval. Tout lire, tout décortiquer. Donc, il n'y a pas une posture créolophone, il y a une suite d'études, de lectures assez intéressantes. Donc, la démagogie, moi j'apprends que Haïti est un pays francophone. Donc, et c'est un point de vue, vous pouvez avoir votre point de vue.
Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'un point de vue, c'est que la langue étatique a toujours été le français. La langue d'apprentissage, c'est-à-dire vous avez appris à parler, à écrire, comme toute langue, on apprend toujours une langue. Et vous êtes en train, enfin, qu'en dites-vous? Pas vous comme personne, mon ami, mais vous comme éditeur et apparemment porte-parole de cette nouvelle école. Et je me promets justement de défendre ça, car on peut plus ghettoiser davantage Haïti, encore moins au Québec. Les gens ont besoin de parler monde, et parler monde, c'est parler histoire. La langue française n'est pas que France, c'est d'abord et surtout une langue partagée, déterritorialisée.
Est-ce qu'on peut le laisser terminer sa réponse?
Si Awol le veut, si vous voulez que je parle.
C'est-à-dire, vous parlez de 2 ans, c'est rien. Vous avez travaillé avec Marcelin Laroche qui était...
Mais il n'a pas terminé sa phrase encore.
C'est-à-dire, je comprends...
Si vous voulez,
c'est pas lui,
si vous voulez prendre la place,
être
vous
franc
venir ici.
Avec les gens.
Donc, ce qu'il y a, Awol, ce qu'il faut éviter, c'est la médiocrité sonore. Vous voyez, donc il faut l'éviter, parce qu'il y en a beaucoup en Haïti. Il faut éviter cette posture exhibitionniste, sonore, et très, très, très qui n'a aucune légitimité. Et moi, je parle d'un lieu de grande difficulté, où la question créole, elle est fondamentale aujourd'hui, parce qu'il y a plein de gens dont la langue n'est pas prise en compte dans des schémas de développement, dans des schémas de développement où ces gens sont complètement marginalisés. Donc moi, je suis au-delà de la langue, et vous avez raison quand vous parlez de... C'est-à-dire que est-ce qu'il faut être créolophone ou francophone ou francophile? C'est-à-dire que la question pour moi est la langue est simplement un outil. Un outil, quand j'ai parlé de Pierre Vernet, j'ai dit simplement que j'ai compris, je comprends son combat. Je comprends son combat quand ça répond à une société ségrégée, quand ça répond à la marginalisation des milliers de gens, quand dans un pays, on dit un système va être fait, hein, quand des fils de paysans vont à l'école et les premiers mots qu'ils vont apprendre à l'école, c'est en français, là, je pense qu'il y a un problème. Quand on a des professeurs qui n'ont jamais appris à parler le français et qui enseignent des manuels qui sont faits en français, donc ça, c'est un problème.
Donc, ce ne sont pas des professeurs.
Je sais pas, je
premièrement,
parle
deuxièmement,
d'Haïti.
Deuxièmement, je dis, c'est
je
pas bien.
Je ne juge pas.
Dans la mesure, si on est, non, il faut juger. Enfin, heureusement, je suis enseignant. Quand on parle une langue, je dis bien, on l'apprend toujours. Parce que ce n'est pas tant la langue comme sujet, verbe, complément. C'est vivre dans la pensée de la langue. Aujourd'hui, en France particulièrement, il y a cette question, justement, des Français, en tout cas, de plus en plus, illettrés. Est-ce qu'ils parlent français? Oui, ils parlent français. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est peut-être là que votre question, votre réponse est, excusez-moi, madame, est tout à fait feutrée. Et donc, du coup, n'a aucun, j'ai envie de dire avec le respect que je voudrais, enfin, rate l'objectivité. Dans la mesure où les gens, heureusement, j'ai étudié en Haïti, les gens qui ont écrit, lu et parlé en français, eh bien, ce sont des types qui ont appris à penser dans la langue. Et justement, par penser dans la langue, c'est pas ignorer la langue de sa mère, de son père. Encore moins, je pense, si sa maman ou papa voulait parler, qu'il parle strictement le créole, mais voilà, je pense que ce serait très bien comme ça. Non, il voulait justement qu'il y ait une dissociation entre l'apprentissage domestique, donc, maternel, et celle, l'apprentissage justement qui ouvre sur le monde, et le français, je pense. C'est pas une question de coloniser, sortons-nous de ça. C'est une démagogie, vous savez très très bien, c'est une langue qui nous ouvre au monde. Soyons ouverts à ce monde et laissons de côté ce débat qui n'est même pas, peut-être même qui est
médiocre. Oui, j'espère qu'on va le laisser de côté provisoirement pour le reprendre plus tard si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, sur la supériorité du français, il me semble qu'on a déjà entendu des choses au 18e siècle à ce sujet. Le discours de Rivarol à l'Académie de Berlin parlait de ça. Voilà, mais je pense qu'on n'est plus tout à fait dans ce siècle. Est-ce que vous voulez poser une question? Vous aviez...
Oui,
mais il faudrait que je vais attendre que le monsieur ait fini. Oui. Non, mais on va peut-être laisser la parole à d'autres personnes. Oui. Non, je sais bien. Non,
oui, alors, je voulais. Alors, ma question, c'est pas sur les créoles, bien entendu. Malgré, c'est une langue que j'écris très bien. Et je remercie beaucoup ma femme, qui m'a aidé beaucoup dans l'apprentissage de l'écriture de cette langue. Parce que je me suis toujours dit, parfois, on parle une langue, on ne sait pas l'écrire. Ça, c'est un gros problème. Bon, passons. Une petite question. D'après tout ce que... Permets-moi de te tutoyer, parce que tu es l'ami de mon cousin, alors je peux le faire.
Je suis ton ami.
Alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire, par rapport à tout ce que tu viens de dire à travers la littérature, on a parlé de Franco, de Jacques Houmin, Jacques-Stéphane Alexis, etc., etc., et ces gens-là qu'on appelle du réalisme merveilleux, en quelque sorte. Alors, ce que je comprends dans tout ce que tu viens de dire, selon moi, c'est la question que je te pose. Après le séisme, est-ce qu'il n'y a pas lieu maintenant d'assister à l'émergence de nouveaux mouvements littéraires en Haïti? Alors, c'est ma question.
Bon, ça prend du temps pour l'émergence d'un mouvement littéraire. Ce qui est important, c'est qu'on entend d'autres voix. Il y a Mackenzie Orsel que j'ai publié, Les Immortels, qui est un récit de toute importance. Il y a Marvin Victor qui vient de publier chez Gallimard, Cormélé, qui est un récit de toute importance. Donc je pense qu'il y a, à mon sens, il y a un nouveau paradigme pour la littérature haïtienne qui est plus dans l'éclatement de la réalité. On peut plus écrire... En fait, comme écrivait, je pense, Jacques-Séphane Alexis, comme écrivait Jacques Roumain, comme écrivait et Jean-Claude Fignolet. Donc, je pense que l'idée de la société est fragmentée différemment. La vision de la pensée haïtienne est du vécu haïtien, tout ça, c'est différent. Et l'urgence même d'écrire se pose de manière très, très différente. Et puis, il y a ce qui est peut-être fondamental, c'est l'émergence de voix. On ne sait pas d'où ces voix viennent, c'est James Noël. Et ce qui est important, c'est que la littérature haïtienne était une littérature avant fortement, je dirais une littérature familiale, une littérature d'héritier. Donc, on sait que le père était écrivain, le père était avocat, l'enfant a appris à écrire, à lire dans la bibliothèque du père. Et maintenant, par le biais de la vulgarisation de la lecture publique en Haïti, on a trouvé des gens dont les parents ne savent pas du tout lire et puis qui sont debout. On a trouvé des jeunes qui sont assez audacieux pour dire, comme par rapport à la peinture naïve, il y a une voie de sortie, il y a une citoyenneté à affirmer et l'expression de la citoyenneté passe par les mots. Et je pense que c'est fondamental. Moi, j'accueille des textes de jeunes auteurs haïtiens qui sont un petit peu partout dans le pays. C'est pas seulement à Pétionville, c'est pas seulement en bas de ville. C'est vraiment, on est en train dans Haïti d'arriver à une expression littéraire éclatée et un petit peu partout. Et ceci en créole, en français. Et il y a beaucoup de jeunes écrivains aux États-Unis qui écrivent en anglais directement, de jeunes haïtiens.
Merci.
Madame. Vous êtes tous tellement éloquents que j'ai dû faire un effort pour ne pas oublier ce que je voulais dire. Juste pour donner un point de vue sur cette histoire de langue, je travaille, moi, sur les littératures de l'Afrique du Nord, et je me suis inventé un mot pour me comprendre. Je parle de langue exo-hexagonale. Je l'ai jamais entendu, mais en tout cas, ça me donne une idée que c'est la langue en dehors de l'hexagone. Et je vais revenir sur la notion de résilience. Rodney, tu ne l'aimes pas? Pour moi, ça a été comme un miracle quand j'ai entendu ce mot-là, parce que je me demandais comment comprendre ce que j'avais pu observer en Afrique. Comme méditerranéenne, moi j'ai l'habitude de, quand on a de la peine, ça s'exprime fort et longtemps. Par contre, cette façon de dépasser la difficulté, je l'avais associée un petit peu à la notion chinoise où ils disent une crise, c'est un passage, c'est pas une catastrophe. Alors, je me disais, bon oui, la résilience, c'est l'Afrique, c'est Haïti, c'est des gens qui ont cette force-là de transcender une difficulté. Alors, on est en désaccord, mais je vais réfléchir à ce que tu as dit.
Merci.
Bon, est-ce que c'est le temps de... Oui, je pense que c'est le temps de clore cette rencontre et je vous remercie tous d'être là et puis je remercie surtout Rodney de nous avoir parlé avec autant d'éloquence de son livre et d'Haïti, de sa passion pour la littérature. Et ce que je trouve admirable, c'est que justement... Moi, j'ai lu le livre de Dany Laferrière, Tout bouge autour de nous. J'ai lu ce livre-là. Et chacun a fait, vous avez fait tous les deux des ouvrages extrêmement différents.
On s'aime, mais on est différents.
Tout aussi pertinents. Chacun de ces livres-là est une forme en soi, une forme nouvelle, en fait. Vous avez inventé une forme pour dire ces choses-là, et je trouve que c'est admirable, et voilà, alors je vous en remercie, c'est un vrai bonheur de lecture, de vous lire, et c'est un bonheur de vous entendre également. Merci beaucoup.
Merci.